le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Ils sont partout, les écrans, sur les tablettes, sur les téléphones, à la télé, les ordinateurs. Bref, vous ne pouvez pas passer à côté. On va parler de surconsommation aux écrans et aux réseaux sociaux, notamment dans ce magazine citoyen, puisque ça a fait la une de l'actualité en métropole face à l'hyperviolence chez les jeunes et après la mort d'une surveillante poignardée par un élève. Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On va en parler dans cette émission avec nos invités. Nous sommes avec Sylvain Once, le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves, Fabienne Cadoca, la trésorière du SFA-CGC, Karine Tricot, qui est orthophoniste à la province Sud, et Emmanuel Rivet, qui est psychologue et responsable du programme Prévention des addictions à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va évoquer évidemment ces questions des écrans. On a pris le prisme de la jeunesse et donc de l'éducation. Fabienne Cadoca, peut-être parler de ces addictions aux écrans. Est-ce que les choses ont changé ces dernières années du fait que les jeunes soient de plus en plus exposés à ces réseaux sociaux, à ces tablettes, à ces téléphones?
Ah oui, au niveau des enseignants, les enseignants notamment de la maternelle, qui sont les premiers qui reçoivent les élèves en début de scolarité, nous disent qu'il y a clairement des difficultés d'attention en classe, des difficultés d'apprentissage, des difficultés de langage déjà, beaucoup, beaucoup de problèmes de langage, et des enfants qui ont tendance à s'isoler en classe du fait de ne pas avoir tous ces contacts sociaux qu'on est censé avoir quand on n'est pas devant un écran, quand on va jouer dehors, etc. Et dans le secondaire, ça va plus être... Le gros souci, c'est vraiment les problèmes de cyberharcèlement au collège. Et puis après, la fatigabilité, les élèves qui dorment très tard parce qu'ils restent longtemps sur les écrans. Donc on a vraiment ce souci-là.
On n'a pas les mêmes phénomènes qu'en métropole, par contre, de violence liée peut-être à une exposition, comme on peut l'entendre, en tout cas en ce moment, dans l'actualité.
Alors ici, c'est pas une violence, je pense, aussi poussée qu'en métropole, mais par contre, il y a ce souci de filmer les bagarres, par exemple, et puis après, qui sont relayées sur les réseaux sociaux, et ça devient limite un amusement, quoi. C'est un amusement de se filmer en train de se battre, et puis après, de mettre ça sur les réseaux. Donc ça va être ce souci-là au niveau de la violence et du cyberharcèlement aussi.
Sylvain Once, du côté des parents d'élèves, c'est aussi un motif d'inquiétude, peut-être cette surexposition aux écrans, ce sont des choses qui vous sont remontées régulièrement?
Ça fait un moment que c'est remonté régulièrement, mais le problème c'est que tant qu'on permettra à des enfants, et là je pense au secondaire, d'avoir des moyens de communication aussi sophistiqués qu'on leur donne aujourd'hui, notamment les smartphones, je veux dire que ça va être compliqué de gérer ce problème. Pour la maternelle, le rôle des parents est important, parce que les enseignants font ce qu'ils peuvent en classe, mais ils ne sont pas à la maison. Donc quand on donne à un enfant, promis, hein, tu ne restes pas jusqu'à 1h30 du matin sur ton écran, oui maîtresse. Le lendemain, c'est pareil, il revient, il est crevé, il est fatigué, il a passé la nuit sur un écran. Donc là, le rôle des parents est important, parce que c'est à eux à surveiller ces problèmes-là et à régler le problème. Tant qu'on n'aura pas une collaboration, c'est l'affaire de tous, en fait. C'est pas uniquement les enseignants d'un côté, les parents de l'autre, c'est l'affaire de tous. Si on s'y met tous à vouloir protéger les enfants de ces phénomènes, parce que aujourd'hui un gamin, vous le mettez devant un écran, il reste une journée. Hein. Les parents, ça les arrange peut-être aussi, hein, quelque part, parce qu'on a vu que les parents, dès qu'ils ont le gosse, il rentre à la maison, un dessin animé, et on est tranquille. Donc la prise de conscience, elle doit être là. C'est une vraie prise de conscience de la part des parents, parce que les enseignants, je crois que la prise de conscience, elle est déjà faite depuis un moment. Mais au niveau des parents, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience, parce que c'est l'avenir de leur gosse qui est en jeu. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, ils lisent plus, ils sortent plus ici, on peut faire du sport, on peut faire beaucoup de choses. Je veux dire, à l'extérieur, on n'est pas obligé d'être collé devant un écran. Et le soir, ben, on leur donne un livre, c'est aussi bien que... Et on met les barrières, à telle heure tu vas au lit, puis on surveille. Donc voilà, c'est aussi une inquiétude de la part des parents. Mais bon, après, il faut qu'aussi chacun joue son rôle. Hein.
Emmanuel Rivet, à partir de quel moment on considère qu'on a un problème avec les écrans? À quel moment on est addict? Ou comment détecter d'ailleurs que son enfant peut avoir une addiction aux écrans de différentes manières?
La question de l'addiction pour les écrans, c'est un peu la même que pour une drogue. Hein. Ça se manifeste par des difficultés à garder le contrôle de sa consommation. Aujourd'hui, dans le monde entier, chez les enfants comme chez les adultes, beaucoup de gens se plaignent effectivement de ne pas être en capacité de réduire leur consommation d'écran malgré qu'ils en aient envie. Donc ça, c'est bien un phénomène de dépendance. Hein. Quand on n'arrive pas à réduire alors qu'on a des conséquences, qu'on constate les conséquences au quotidien, effectivement, on relève d'un cadre qui est celui de l'addiction. Ça fonctionne de la même façon qu'avec une drogue. Hein. Quand on est devant l'écran, on va avoir une libération d'une substance qui s'appelle la dopamine, qui est une hormone du plaisir, qui va être sollicitée quand on va utiliser notre écran, regarder quelque chose. Et très rapidement, le cerveau va être en quête de cette hormone-là et va demander, réclamer effectivement cette exposition aux écrans. Donc aujourd'hui, quand on met des enfants tout petits effectivement devant un écran, on va générer cette habitude comportementale, on va générer cette dépendance, et puis ça va modifier effectivement le développement du cerveau. On le disait tout à l'heure, hein, la surexposition aux écrans, ça affecte les apprentissages, les compétences essentielles. On va avoir des retards de langage, des troubles de l'acquisition de la lecture, des troubles de la motricité, des troubles aussi des relations sociales, parce que quand on est devant un écran, on n'est pas dans la manipulation des objets, on n'est pas dans la relation avec l'individu, avec les autres. Or, l'être humain est un être qui grandit dans l'échange avec les autres et qui apprend dans la manipulation des objets.
Et donc, les recommandations, si on prend le cas d'un enfant, quel est le temps qu'un enfant peut passer sur un écran par jour, selon les recommandations ?
Alors c'est difficile d'avoir des recommandations qui soient formelles. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement, en bas âge, ne pas exposer du tout les enfants aux écrans. Donc pas d'écran avant 3 ans et très 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 peu d'écran jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que les écrans doivent s'intégrer progressivement, mais dans un usage qui soit très occasionnel, très modéré, tourné vers quelque chose d'éducatif, parce qu'on peut avoir des programmes qui peuvent être stimulants, qui peuvent être intéressants, mais on peut avoir des choses qui ne sont pas du tout adaptées aux enfants. Et puis cet usage, il doit se faire aussi dans l'interaction relationnelle, c'est-à-dire on regarde la télé un petit peu, mais avec papa ou avec maman, on échange sur ce qu'on voit, sur ce qui se passe, parce que le but, c'est justement de développer à ce moment-là le raisonnement, la réflexion, l'interaction.
Aujourd'hui, on a très peu de données statistiques sur l'utilisation des écrans par les jeunes calédoniens.
En Nouvelle-Calédonie, les dernières données qu'on a concernant les jeunes, c'est le baromètre 2019 qui nous indiquait que 70% des jeunes passent plus de 2 heures par jour sur un écran. Alors cette question, on l'a posée dans le cadre de la sédentarité. On voulait savoir effectivement en quoi les écrans allaient impacter la jeunesse dans sa capacité à avoir des activités sportives, à avoir une alimentation raisonnable. Donc on se rend compte que 70% passent plus de 2 heures par jour. Mais il y en a aussi qui passent plus de 3 heures par jour parmi ceux-là, plus de 4 heures, plus de 5 heures. Donc aujourd'hui, ces données, il faudra qu'on les remette à jour. On a un nouveau baromètre qui va se faire cette année en 2024. Mais ce qui est certain, c'est que l'usage n'a fait qu'augmenter depuis ce temps-là, quoi. Et que du coup, les écrans ont des implications à tous les niveaux, sur la santé physique aussi. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de pathologies de surcharge pondérale, d'obésité, qui sont liées aussi à ce manque d'activité, à cette sédentarité, et qui est directement liée au smartphone et à l'usage des écrans.
On parlait de retard dans l'apprentissage ou de difficulté d'apprentissage, Karine Tricot. Vous qui êtes orthophoniste, dans le développement du langage, ne serait-ce que cela, l'écran peut jouer un rôle négatif et néfaste dans le développement de l'enfant ?
Oui, tout à fait. J'exerce depuis 29 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je ne voyais pas d'enfants qui arrivaient à l'école en maternelle sans langage. Maintenant, c'est une pratique assez courante, quel que soit le milieu socio-professionnel, quel que soit l'endroit. Et on sait qu'un enfant, pour apprendre à parler, il doit être dans l'interaction avec des humains, avec ses parents, avec ses proches, et qu'un écran ne permet pas d'apprendre à parler. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'échange visuel, comme disait Emmanuel, il n'y a pas non plus de toucher. Et c'est vrai que imaginer qu'un enfant puisse apprendre du vocabulaire via une tablette, c'est vraiment quelque chose qu'on doit déconstruire auprès des parents, parce qu'un enfant n'associera un mot à une chose que par l'expérimentation. Si vous lui montrez une image d'une pomme, lui, il verra un dessin, mais il ne va pas faire l'association que nous, adultes, construisons. On va faire faire entre le goût, l'odorat, le toucher.
Mais un livre, avant, quand on prenait les livres pour apprendre les mots, il y avait bien une pomme de dessiner.
Oui, mais en même temps, on montrait aussi une vraie pomme à l'enfant. Et l'interaction avec le livre, c'est que justement, quand on regarde un livre avec l'enfant, il n'est pas seul devant sa tablette. Et que le fait de raconter l'histoire, de voir l'enfant s'interroger, on va s'ajuster, on va lui dire « Ah, mais est-ce que tu as déjà vu une pomme ?»« Ah bah tiens, y en a dans la cuisine, je vais te montrer. » Alors que l'usage de l'écran fait qu'on n'a plus cette interaction. L'écran ne va pas s'arrêter si l'enfant ne comprend pas ou il ne va pas savoir si l'enfant comprend. Donc, voilà, l'écran, oui, c'est une belle chose, mais pour apprendre des choses, les fondamentaux dont l'enfant a besoin avant 3 ans, ça ne marche pas.
Donc c'est plus tard les contenus pédagogiques.
Oui, et toujours accompagné et toujours bien choisi. Et ça doit être une manière parmi tant d'autres d'apprendre des choses à l'enfant.
Alors vous parliez d'enfants qui ont des troubles du langage ou qui ne parlent pas. Est-ce que ça peut aller même plus loin, des enfants vraiment renfermés sur eux-mêmes ou avoir d'autres types de comportements que vous n'avez pas vus par le passé, vous ne voyez pas ?
Voilà, on voit des enfants qui ont des manières de se comporter qui peuvent être proches des troubles du spectre de l'autisme, alors qu'en fait ils n'ont pas de problème neurodéveloppemental. Et cette absence d'interaction avec d'autres personnes font que les enfants ne développent pas le contact visuel, ne vont pas vers les autres, s'isolent complètement. Et on peut se demander si cet enfant n'a pas un trouble spécifique. Et lorsqu'on arrête les écrans, on voit un enfant qui se redéveloppe normalement. Des problèmes de beaucoup de troubles de l'attention, d'hyperactivité, pareil. Puisque l'enfant, les parents ont le sentiment que l'enfant va être mobilisé devant l'écran, qu'il va être attentif. Et en fait, il ne va pas apprendre à développer son attention volontaire, celle dont on a besoin pour apprendre des choses, celle dont on a besoin pour se poser des questions, pour raisonner. Et du coup, ces enfants, ils arrivent à l'école, ils n'ont jamais été confrontés à cette obligation d'être attentif. Et on a ces enfants qui sont agités, qui ne se concentrent pas. Et puis, il y a, comme vous disiez aussi, le problème de sommeil qui est majeur, tout ça.
Aujourd'hui, on peut se sevrer d'une addiction aux écrans. Comment ça se passe techniquement et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour soi-même ou pour son enfant? Parce que je pense que ça doit être dur aussi pour un enfant de savoir qu'il a un problème avec les écrans et de pouvoir se sevrer de tout ça. Il doit être accompagné.
Oui, alors, de toute façon, un enfant doit toujours être accompagné par ses parents. Il doit être accompagné pour être stimulé vers d'autres choses. Il doit être accompagné pour qu'on lui donne le goût, effectivement, à d'autres activités, pour qu'on lui apprenne qu'on peut s'amuser autrement. Donc, il doit être accompagné, il doit être soutenu. Le sevrage, c'est la rupture nette avec un produit ou avec un comportement qui pose un problème. Donc, effectivement, quand on a un enfant bas âge qui a des effets extrêmement délétères de cette exposition aux écrans, il va falloir le sevrer complètement. Si on veut que ça puisse changer. Et donc le sevrer complètement, c'est le couper du téléphone, le couper de la télé. Et oui, c'est jamais une période facile. C'est comme un usager de drogue qui arrête de consommer de la drogue. Il va y avoir du manque, il va y avoir peut-être des pleurs, des cris, des moments difficiles pendant quelques temps. Mais c'est une période à passer parce que le bénéfice au terme de cette période-là, il est vraiment important. En ce qui concerne les écrans, quand on arrive à sevrer un enfant qui est surexposé, on voit vraiment un changement rapidement se mettre en place, des acquisitions qui n'avaient pas été faites jusqu'à présent, qui se développent, le langage qui va décoller d'un seul coup, des manipulations d'objets qui vont être en capacité de développer des capacités de manipulation qu'ils n'avaient pas avant, l'imaginaire qui se développe. Donc c'est vraiment très très important de les sevrer parce qu'on va avoir un changement. Et un changement aussi du coup dans l'école, la réussite à l'école, le relationnel avec les autres enfants, donc il n'y a que des bénéfices. Maintenant, ce qu'on essaye de dire tous depuis tout à l'heure, c'est pas que les écrans sont mauvais, c'est juste qu'il faut apprendre à utiliser ces écrans pour en avoir uniquement les bénéfices et pas les inconvénients. Et aujourd'hui, ce qui est très facile, c'est d'aller à l'excès. C'est de laisser les smartphones, les télés, les ordinateurs prendre trop de place dans notre vie. Donc il faut réussir à limiter ces usages, les raisonner. Il faut réussir à se mettre des règles pour faire en sorte qu'effectivement, on n'utilise pas les écrans tout le temps, avec des moments appropriés. Il faut préserver des espaces, des écrans. Parmi les recommandations qu'on peut faire, il y a celle de l'âge. Effectivement, on a dit pas d'écran avant 3 ans, très très peu jusqu'à 6 ans. Un usage accompagné, mais il y a aussi des recommandations, celles qu'on appelle les 4 pas notamment, qui disent pas d'écran dans la chambre de l'enfant, parce qu'il faut qu'on puisse garder un œil aussi sur le contenu auquel il est exposé. Vous l'avez dit tout à l'heure, jeune, on peut être exposé à des contenus qui ne sont pas du tout adaptés, de la pornographie, de la violence, des choses qui peuvent être dramatiques pour des enfants. Donc pas d'écran dans sa chambre, pour pouvoir toujours avoir l'œil dessus, mais aussi pas d'écran le matin, pour pouvoir préserver justement ces ressources attentionnelles qui vont être utilisées à l'école. Si on arrive, après avoir passé une heure et demie devant les dessins animés, effectivement, on n'a plus la capacité à s'investir dans les apprentissages. Pas d'écran le soir avant de se coucher, on l'a dit, parce que la fatigue va être extrêmement importante, le sommeil va être modifié, et le sommeil, c'est l'équilibre de tout chez l'être humain. Et puis, pas d'écran, il m'en manque un, pendant les repas, pour justement favoriser effectivement les interactions. Le repas, c'est un moment important, c'est un moment d'échange en famille, où on va pouvoir faire le point sur la journée, où on va pouvoir parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire demain. Donc il faut vraiment essayer de privilégier des usages qui soient positifs, mais qui n'influent pas et qui n'ont pas d'impact négatif sur le quotidien.
Alors, on parlait des écrans en règle générale. Là, on vient d'évoquer un petit peu aussi la question des contenus. Fabienne Cadoca, est-ce que ces jeunes, ils sont aujourd'hui exposés au contenu? Est-ce que ça vous est remonté? Est-ce que ça change leur comportement, leur développement et peut-être au-delà des apprentissages, j'ai envie de dire, leur comportement de citoyen?
Ben ça, oui, effectivement, ça change surtout pour les petits. Les petits, on sent que ça change. Et après, au niveau des adolescents, on se rend compte que dès qu'ils ont un moment, c'est tout de suite leur téléphone. Et par exemple, on voit qu'en métropole, ils essaient là d'interdire le téléphone dans certains établissements pilotes dès la sixième. Mais ça, on aimerait bien que ça soit généralisé partout, parce qu'ici, en Calédonie, on a ces interdictions de téléphone, mais on ne peut pas interdire l'élève de venir avec son téléphone. Mmh. Le téléphone, il doit être dans le sac. On n'a pas le droit de le sortir, mais on sait très bien que certains les sortent quand même. Et on voit au niveau de la différence, c'est vraiment la sociabilisation, c'est-à-dire que les jeunes, ils se disent avoir plein d'amis, mais sur les réseaux. C'est-à-dire qu'ils se font une vie virtuelle, plus virtuelle que une vie où on échange à l'oral, où on joue. Malheureusement, on a de plus en plus ces problématiques-là. Et pour vous donner un exemple, hein, au niveau des enseignants, là, la province sud, vous savez qu'en province sud, il y a ces fameuses classes numériques en collège qui sont mises en place dans certains collèges. Et ben là, les enseignants, aujourd'hui, ils sont plutôt réticents. Pourquoi ? Ben parce que effectivement, on ne peut pas dire que les écrans, c'est pas bon. Enfin, tous les écrans ne sont pas bons. Il y a forcément tout ce qui est interactif, tout ce qui est ludique qui peut servir à l'enseignement. Mais le problème, c'est que les jeunes sont tellement exposés aux écrans que du coup, les enseignants nous disent, mais là, on les expose encore plus, nous, avec les classes numériques. Et d'autant plus que souvent, il y a eu ces ordinateurs qui ont été donnés dans les classes sans réellement former les enseignants. Et aujourd'hui, ça devient, pour plusieurs établissements, ça devient plus un boulet. Ces classes numériques, tous ces ordinateurs deviennent plus un boulet parce que c'est difficile à gérer et il faut être formé pour savoir utiliser correctement et ludiquement ces tablettes et ces ordinateurs.
Alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'un enfant qui serait moins exposé aux écrans n'est pas exposé forcément à la même culture que ses autres camarades qui sont tout le temps sur les réseaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas avoir de sociabilisation avec ses camarades qui, eux, ont vu la dernière série ou le dernier YouTuber à la mode ou le TikToker qui va bien ?
L'idée, c'est pas l'exclusion. Évidemment qu'il faut pouvoir ne pas être différent des autres et qu'il faut pouvoir partager des contenus avec les autres. Mais l'idée, c'est de se préserver de ce qui est dangereux. Donc quand on a 13, 14 ans, 15 ans, on peut très bien effectivement avoir une vie sur les écrans, avoir des relations sociales aussi avec les réseaux, enfin en tout cas à partir de 15 ans, avec les réseaux sociaux, puisque c'est l'âge de la majorité numérique. L'idée, c'est pas d'interdire tout ça, mais c'est de protéger, de contenu inadapté. Aujourd'hui, on voit effectivement une banalisation de la violence qui est aussi amenée par ce à quoi les jeunes sont exposés et qui trouvent normal, qu'on voit véhiculer au travers des réseaux sociaux, au travers des chaînes YouTube, au travers de tas de vidéos auxquelles ils sont exposés. On voit aussi ces effets-là sur la sexualité, hein, avec une représentation de la sexualité aujourd'hui qui est chez les jeunes bien plus héritée de l'exposition à la pornographie et aux films pornographiques que de l'éducation en santé sexuelle qu'on peut proposer. On voit aussi une exposition à des scènes effectivement extrêmement violentes. Moi, je le vois en addicto, par exemple, la place qu'a pu prendre la cigarette électronique très récemment, chez les jeunes, on en parlait, hein, en collège, qui sont très très exposés à la CE ou très rapidement, 11, 12, 13 ans, on voit des gamins qui consomment ces produits-là. Et ces produits-là, ils sont valorisés par ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a du marketing qui se fait sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui vont communiquer une image positive, une valorisation de ces produits. Et les jeunes qui sont exposés aux écrans sont extrêmement sensibles à ça. Donc l'idée, c'est pas de ne pas avoir de relation avec les écrans, c'est pas de se mettre à part, mais c'est d'avoir un usage qui soit raisonné, qui soit modéré et qui soit contrôlé par les parents. Parce que je pense que tant qu'on est un adolescent ou un préadolescent ou un enfant encore plus, on doit être protégé par ses parents qui, eux, sont là pour poser un cadre à la maison qui sera justement protecteur et qui leur permettra d'éviter un certain nombre de désagréments et d'être peut-être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, comme le disait ma collègue ici présente.
Alors justement, le rôle des parents, Sylvain Hans, on évoque par exemple le cyberharcèlement, c'est des choses qui font l'objet d'inquiétudes de la part des parents. Vous avez des remontées là-dessus. Est-ce qu'ils se sentent désemparés par rapport à ces phénomènes-là ?
Désemparés comme toujours, hein, quand vous ne maîtrisez pas certaines technologies, vous êtes désemparés. Mais je reviens à ce que Mme Kadoka disait tout à l'heure. Le premier exemple pour les enfants, c'est le parent. Parce que quand le gamin il rentre à la maison et qu'il voit les parents à table collés sur le téléphone et que ça échange, ça parle, on ne parle pas, on est sur le téléphone. Ça, c'est ce qu'on voit régulièrement. Aujourd'hui, il n'y a plus un parent qui n'est pas accro à son téléphone et qui ne passe pas son temps à envoyer des messages, à regarder je ne sais pas quoi. Et les premiers utilisateurs des réseaux sociaux, c'est quand même l'adulte, hein. C'est avant d'être le gamin. Donc l'idée, c'est bien que le parent soit un exemple pour son gamin. Celui qui va contrôler, mais aussi qui va donner l'exemple de ne pas utiliser le téléphone pendant des moments importants, comme le repas à table. Parce que on a vu, hein, dans certains cas, les parents à table, le gamin, il est complètement sur le côté, il peut hurler tout ce qu'il veut, les parents sont dans le téléphone. Hein. Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Donc, le cyberharcèlement, on a beaucoup de remontées, parce que, quelque part, les parents sont inquiets, parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas quoi faire pour ça. Je veux dire, là, quand ça se passe, notamment dans les collèges et lycées, les gamins ne viennent pas toujours raconter tout de suite ce qui se passe. Moi, j'ai connu des jeunes filles qui étaient harcelées et qui ont mis un temps fou avant de venir interpeller leurs parents pour les dire, voilà, on harcèle, etc. Voilà, les photos, etc. Mais tout ça, ça se passe en secret, quoi. La jeune fille a son téléphone, elle ne le montre pas à ses parents. Elle met du temps quand elle se sent vraiment en danger. Et ça, c'est quelque chose... Et là, les parents doivent être vigilants. Le comportement de l'enfant change. Quand il est harcelé sur Internet, le comportement change immédiatement, notamment pour les jeunes filles. Et donc, il faut que les parents soient très, 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 vigilants et qui regardent un peu ce qui se passe chez l'enfant, et notamment quand il y a des changements comme ça.
Et ce problème des réseaux fait que le harcèlement continue après le cadre scolaire, puisque oui. Auparavant, le harcèlement, ça se passait dans l'enceinte de l'école, et aujourd'hui, ça s'invite dans la chambre si on a le téléphone, etc. Ça, c'est des choses aussi qui sont, je suppose, difficiles à vivre. Vous êtes vigilante, vous, sur ces questions-là, Fabienne Kadoka ?
Ben, je pense que ce sont surtout les chefs d'établissement qui doivent être vigilants, et pour eux, pour les chefs d'établissement, notamment, ça devient... C'est quelque chose de plus, quoi, qu'ils ont à gérer, parce qu'effectivement, avant, nous, de notre époque, ça n'existait pas. On avait un compte à régler, il y avait la bagarre dehors, et puis après, ça s'arrêtait là, le lendemain, on se revoyait. Là, le problème, c'est que ça n'arrête pas. C'est-à-dire que même quand l'enfant rentre chez lui, ça continue, et du coup, forcément, ça revient au niveau des établissements, et c'est le chef d'établissement qui doit gérer, qui doit convoquer les élèves qui ont harcelé l'autre, etc. Donc c'est vraiment un souci, et je rejoins M. Hans, les parents sont souvent les derniers au courant de ces problèmes de cyberharcèlement, parce que les enfants n'en parlent pas forcément.
Aujourd'hui, de votre point de vue, est-ce que les pouvoirs publics vont assez vite sur ces questions, finalement, liées aux écrans, que ce soit les contenus inappropriés? On voit que le président de la République pense à prendre une mesure pour interdire les réseaux sociaux, etc., etc. On a vu qu'il y avait un certain nombre de sites pornographiques aussi qui avaient été interdits en France parce qu'ils avaient refusé de se mettre en conformité sur le contrôle de l'âge légal. Est-ce que ça va suffisamment vite et suffisamment loin, d'après vous ?
Ah ben moi, je pense qu'ils auraient dû réagir beaucoup plus tôt que ça. Là, il est jamais trop tard, c'est sûr. Il est jamais trop tard pour réagir, mais ça va être plus on traîne, plus c'est difficile à redresser la barre. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'en métropole, nous on le dit toujours, c'est pas parce qu'en métropole ils autorisent ça, ils autorisent ici qu'on doit le faire en Calédonie. En Calédonie, on peut aussi nous prendre nos propres textes, nos propres lois. Et nous, on est pour l'interdiction des téléphones dans les établissements, hein, par exemple, au niveau de notre syndicat. Quand je dis l'interdiction des téléphones, c'est quand vous avez un souci, il n'y a pas de problème. Vous appelez depuis le collège ou depuis le lycée, vous appelez vos parents. C'est ce qu'on faisait avant. Donc, ou alors donner des téléphones, des vrais téléphones, quoi, des vrais téléphones, pas des smartphones. Comme ça, il n'y a pas de, voilà, nous, on serait plus pour ça, pas une fois que les enfants sont grands, etc. Mais quand ils sont jeunes, il n'y a pas de raison de leur donner un smartphone.
On parlait tout à l'heure de l'exemple des parents. On le disait en préparant cette émission, c'est qu'aujourd'hui, les parents, la nouvelle génération, en tout cas des plus jeunes enfants, sont plus vigilants sur ces questions-là des écrans. C'est ce que vous notez aussi. Ils sont plus au courant. Ils se posent plus de questions peut-être qu'il y a quelques temps.
On commence à avoir une petite évolution
positive. Une prise de conscience.
Oui. Ouais. Ah oui, dans mon service, on fait pas mal de prévention en crèche. On va voir les parents. On fait aussi en maternelle, en école primaire, soit pour certaines de mes collègues le font pour les enfants. Et puis, on peut le faire aussi en binôme pour les parents. Et on a quand même... On voit que le message commence à passer. Mais comme vous disiez, le problème, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de retard et qu'on a pas mal d'enfants qui sont déjà bien, bien en difficulté. Et ça... Il faut qu'on continue à avoir ce message de sensibiliser les parents, d'informer les parents qui peut-être, de jeunes parents qui sont nés aussi avec cette génération de smartphones et qui du coup ne se rendent pas compte que leur propre usage a un effet négatif sur le développement de leur enfant. On sait très bien que, comme vous disiez, monsieur, c'est le parent qui est le premier à interrompre les relations avec l'enfant par l'usage de son téléphone. Donc il faut qu'on arrive à avoir conscience de notre usage et de ne pas l'utiliser quand on est avec son enfant.
Vers qui on se tourne quand on a un doute, qu'on se dit que son enfant est peut-être, et peu importe l'âge d'ailleurs, qu'il y a peut-être un problème avec les écrans, que ce soit un problème de cyberharcèlement, de développement, ou alors de contenu inapproprié, ou peut-être d'une surconsommation. Vers qui on se tourne? C'est peut-être pas une réponse unique.
Parce que déjà, on fait une analyse au niveau de la famille, hein, de savoir comment ça se passe. On n'a pas besoin de se tourner d'office vers un professionnel pour déjà se questionner sur comment ça se passe à la maison, à quoi nos enfants sont exposés. Est-ce que trop souvent, ils ont le téléphone dans la main? Est-ce qu'ils sont trop de temps sur la télé? Est-ce qu'ils se lèvent la nuit pour aller chercher la tablette? Donc je pense que déjà, on fait un diagnostic à la maison et puis on essaye d'en parler, de communiquer, de fixer des règles, un cadre. Aujourd'hui, il y a des applications qui sont disponibles sur le numérique aussi et qui vont permettre justement... aussi de pouvoir construire des pactes à la maison, de pouvoir convenir d'un fonctionnement établi qui soit protecteur. Notamment, il y en a une qui s'appelle Faminium, qui est assez pratique pour les parents, qui peut leur permettre justement d'essayer d'établir avec leur famille et leurs enfants un cadre et une réglementation à la maison qui soit plutôt protectrice. On a des logiciels de contrôle parental aussi qui permettent aussi de bloquer l'accès à certains contenus et à certains réseaux. Donc, il ne faut surtout pas oublier d'utiliser ces outils-là. Et puis, si vraiment on a des difficultés à établir des choses ensemble, on peut s'adresser à des professionnels. Alors quand on est jeune adulte ou parent ou adolescent, on peut s'adresser à des clics auprès d'un service auprès duquel on peut trouver de l'aide pour faire un bilan de sa propre consommation d'écran et essayer d'établir des stratégies pour mieux les gérer, pour ne pas en avoir un impact au quotidien, pour avoir une relation qui ne relève pas justement de la dépendance. Et puis quand on a un petit qui, lui, semble effectivement souffrir de cette exposition trop importante aux écrans, on le signale. On le signale auprès de l'école déjà, on le signale auprès de son médecin, on le signale auprès du CMP qui peut effectivement recevoir les parents, la famille et puis proposer une prise en charge adaptée pour faire évoluer la situation. Mais ce n'est pas les experts, ce n'est pas les gens à l'extérieur qui font évoluer les choses. C'est effectivement ce qu'on va mettre en place dans le système familial qui va permettre d'avoir un développement plus harmonieux chez ces enfants-là.
Et d'ailleurs, on le voit désormais, les téléphones, les applications nous donnent le temps aussi qu'on passe sur notre smartphone par jour. C'est qu'il y a un vrai problème de santé publique pour qu'ils soient contraints de le faire. Je suppose que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils nous disent combien de temps on passe sur notre téléphone pour essayer de réduire notre consommation. Donc il y a des vraies règles aussi à mettre en place.
C'est une obligation légale, oui, effectivement.
Et à partir de combien de temps on s'inquiète? Parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent, là, qui ont la petite notification toutes les semaines et qui se disent « je suis peut-être dans la mauvaise barre ».
Ce qui est compliqué, justement, c'est que c'est rarement la limite du temps qui compte. Oui. Chez les petits, ici, on établit des limites de temps. C'est surtout à partir de quand ma consommation d'écran, elle commence à poser des problèmes. Il y a des gens qui peuvent passer 3 jours par heure sur, sur les écrans sans pour autant avoir d'impact sur leur vie sociale, sur leur vie relationnelle. Mmh. Le travail, ça va bien. L'école, ils s'y accrochent. Ils ont des amis, ils sortent, ils ont d'autres activités. On ne peut pas estimer que ce soit une consommation problématique. À l'inverse, y en a qui vont passer 3, 4 heures par jour et qui ne vont plus sortir, plus avoir envie de voir les copains, arrêter de jouer au foot, arrêter d'avoir d'autres activités. Mmh. Et là, effectivement, on a un usage problématique. Donc ce qui est important, c'est surtout d'évaluer quelle relation on a avec les écrans et quel est l'impact de cette consommation sur notre quotidien. Et à partir de là, effectivement, il va falloir mettre des limites et les limites de temps en font partie.
Eh bien, le message est passé. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce midi pour parler de la consommation des écrans. Vous l'avez compris, éteignez la télé, écoutez la radio. Il est midi passé de 30 minutes.